Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'amour est derrière nous. Nous allons entrer, si l'on peut dire en tout cas, de plein pied dans le communisme. Pas tout à fait de plein pied d'abord. C'est vraiment une première rencontre. Esther, que vous avez connue en Bessarabie, qui fait partie de la famille Tsoudik, vous présente un jeune homme. Vous le prenez fort mal dans un premier temps parce que vous pensez que le monsieur est amoureux de la dame que vous-même...
Donc l'amour n'est pas derrière nous, il est toujours là.
C'est vrai, mais avec vous, il est souvent là, il faut dire. Donc vous êtes un peu jaloux de ce jeune homme qu'Esther vous présente, parce que vous-même êtes sans doute sensible au charme de la jeune fille. Mais très vite, vos doutes sont dissipés. Kappa, puisque c'est comme ça que vous l'appelez, lettre grecque, Kappa, c'est bien autre chose.
Oui, Kappa, c'est ce qu'on... Enfin, j'ai donné un nom, lettre grecque, parce qu'il portait à chaque fois un autre nom. Vous savez, c'était la clandestinité. Et la Bessarabie était quand même un des centres du mouvement communiste. Et Kappa, donc, était ce qu'on peut appeler, je crois, un révolutionnaire professionnel. De toute façon, c'était quelqu'un qui appartenait à l'appareil du parti, qui était un garçon un peu grand, un peu... qui devait avoir à ce moment-là 20 ans, 20 et quelques années. Et il a certainement le parti qui en 1940 voulait se déplacer vers la Roumanie, puisqu'ils savaient que la Russie va occuper la Bessarabie et donc implanter un certain réseau. Il faisait un travail de recrutement. Et comme je l'écris dans le livre, je pense que c'est par Esther qu'il a dû sentir que dans ce que je disais ou dans ce que je pensais, il pouvait me proposer d'entrer dans le parti. Comme je dis, mon cousin était sioniste, mais moi, à ce moment-là, j'étais pas sioniste. Enfin, c'était pour moi la guerre d'Espagne qui m'avait plongé dans cette pensée politique, si vous voulez, et puis Zola. Et donc, j'étais plutôt ce qu'on peut appeler de gauche. Et c'est par elle que je l'ai connu, et c'est lui qui me propose d'entrer au parti à ce moment-là. C'était un peu une proposition, je pense, risquée, mais il n'avait pas le choix. Je pense qu'ils étaient aussi pressés de recruter autant de monde que possible, enfin autant de jeunes que possible, et j'y réponds positivement. Et je n'ai jamais regretté d'ailleurs, même si j'ai regretté ce que le communisme était, mais pas d'être entré dans le parti.
La communauté juive roumaine est alors à majorité communiste?
Non, ça c'est une histoire... Vous comprenez, tout le parti communiste... D'abord, je vais dire deux choses. Tout le parti communiste faisait, je ne sais pas, il y avait 1000 membres. Et la communauté juive était de 800 000 ou 700 000. C'est vrai que dans le Parti communiste, il y avait 80% à peu près de quoi? Après tout, ces juifs étaient citoyens roumains. Donc ils étaient roumains. Hein, ils n'étaient pas... La qualité de juif, c'est une qualité privée. Hein. Et je dirais qu'il était juif sur quel critère? Le critère religieux? Les juifs qui étaient... Les jeunes qui entraient dans le Parti communiste étaient pour la plupart très peu croyants, et même anti-juifs, si on peut dire, par exemple, la fameuse Anna Pauker, la plus grande insulte qu'on aurait pu lui faire, c'est de lui dire qu'elle était juive. Hein. Donc c'était des Roumains, des jeunes Roumains. Donc tout ça, c'est des constructions, à savoir que les juifs sont communistes, le communisme est juif, etc. Mais c'est vrai que... Il y avait une grande partie de gens qui venaient de notre communauté. Mais ça faisait que 1000 personnes, je sais pas, sur 700 000. Alors donc dire que la communauté juive était communiste, ça c'est faux. Si la communauté juive était quelque chose, et elle l'était, c'est vrai, elle était sioniste. Le mouvement populaire, le mouvement qui avait des racines, qui participait à l'éducation des jeunes, c'était le mouvement sioniste plus... même que la religion dans les années 30, 38 et 40.
Alors, à ce moment-là de notre histoire, une véritable page va se tourner pour vous, parce que là, c'est un nouveau départ donc pour Bucarest, c'est un départ définitif. La Bessarabie, c'est vraiment derrière vous. C'est votre père qui prend cette décision et qui vous dit, écoute, cette fois, ça y est, je décide, on s'en va. Et alors là, vous tuez le père d'une certaine façon,
oui,
c'est-à-dire que vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur.
J'ai dit tout ce que j'ai sur mon cœur, parce que moi, je voulais rester, étant donné que je me disais, où est-ce qu'on va rentrer? Chez les nazis, hein? Et lui, comme je disais, lui était conservateur, et lui, les rouges ne voulaient pas en entendre parler. J'essayais, et l'étudique restait, c'était une chose importante, hein? L'étudique et d'autres amis, mais une tante aussi. Et donc j'ai une sorte de grande discussion de rupture avec lui. Et je pense que ça a été vraiment la dernière fois où nous avons vraiment parlé profondément. Et il prend la décision de partir vers la Roumanie, ce qui m'a sauvé la vie, entre parenthèses. Mais c'est comme ça. Et donc, je ne laisse pas derrière, je pense, la Bessarabie. Elle est toujours restée à moi. Mais c'était fini. Toute cette période, tous ces sentiments, tout ce mode de vie, justement, que j'appelais juif, toute cette culture particulière, était restée comme ça, est devenue une partie de moi, mais simplement sur le plan de sentiments et de la mémoire. Ce jour-là, quand nous avons quitté la Bessarabie.
Et tous les gens qui y sont restés, tous vos proches, tous les gens que vous avez aimés là-bas, sont morts?
La plupart. J'ai une tante qui n'est pas morte, qui est revenue. Enfin, la plupart, oui.
À Bucarest, les lois raciales se sont durcies. Nous en parlons dans un instant.
Wenn Mensch bist jung, ist groß dein Schwung, dann juckst du sich noch glied. Verlost, vergesst dein Heim, dein Nest, die Zeit kommt nicht zurück. Wenn's kommt die Älteren, tust du sich adermon. Und trachst, was ist geschehen, sich nicht darum gesehen, wie lang bin ich allein ein Kind gewesen. Ich will noch einmal sehen mein Heim, sie ist noch als dort wie gewesen. Otto der Park an, do der Bäum, Otto der Dach, was hat sich kaum mein Arm heim. Für event a Tischl und a Bank, Otto verbracht hab ich es lang. Ob du gecholent in geheim, mein Jugendlied, mein Jugendträum, ich denke heim, ich hör, es singt in nachtigen Geräusch, wie viel Heim vermogt am Mannes vorm Heim. Smeck sein von Ziegel, sie von Stein, smeck sein von Streu, smeck sein von Lehm, ich bin geheim. Wie sorglos frei läuft Mensch vorbei, ich steh dabei und klär. Er hat gewiss sein Ort, sein Tisch, sein Warmbett nicht mehr. Mein Heim ist mir verstärkt, mein Heim ist mir verwehrt. Ich wandere nach und an, ich bin keinmal nicht zu satt, wenn ich wohl jetzt mein Ohren heimgehört. in mine hand. Sees noch als dort wie gewesen. O do der Balkan, do der Bäum, o do der Dach, wo es kann sich kaum mein Ohren heim. Wir wenden die Tische und die Bank, o do verbracht, ob ich es lang, ob do gekulent in Geheim, mein Jugendlied, mein Jugendträum, ich bin geheim, ich heim. Es singt in nachtigem Geräusch der Wind, der jammert mir in der Schoß. Oh, wie viel Bängschaft, wie viel Heim, warum mogt am Mames eurem Heim? Smeck sein von Ziel. Sie von Stein, smeg sein von Spreu, smeg sein von Lehm, ich bin geheim.
C'est donc communiste que vous partez pour Bucarest. Est-ce que déjà vous avez pris des rendez-vous avec Capa? Est-ce que vous savez comment il va vous contacter ou pas? C'est le flou.
Vous voyez, cette chanson pourrait me faire pleurer dans d'autres circonstances, parce qu'effectivement, « My Heim is Verstärkt » quand je pars, c'est de Bessarabie. Et non, je ne prends pas de rendez-vous avec lui, c'est lui qui m'a dit qu'il va me contacter. Quand je repars à Bucarest, il faut penser maintenant, je suis exclu du lycée. Tout ça, ça a été une aventure pour moi triste et lamentable. Un des dixièmes efforts de construire une vie sans aucun résultat. Et donc, quand je rentre en automne, c'est pas qu'il y a de nouvelles lois, mais on sent que tout a basculé.
Ben quand même, les Juifs sont désormais une race. C'est plus une religion, c'est une race. L'État national-socialiste
oui,
est instauré.
Oui, mais ça, nous n'étions pas assez intellectuels à ce moment-là. Vous savez, nous pensions à des choses plus terre à terre. Et donc, je rentre dans une école de métier. Je deviens vraiment artisan. Je rentre à l'Hort, qui existe d'ailleurs toujours à Paris, dans la rue des Rosiers. C'est une école où on apprenait les métiers. Ma tante, d'ailleurs, m'y fait entrer. Et donc, je suis entré en pensant, bon, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Et on attendait. On n'attendait pas le Messie. On attendait savoir ce qui va se passer. C'est les moments les plus pénibles, parce qu'il y avait la défaite des Alliés, il y avait tout ce qu'on commençait à entendre parler d'ici là. C'était une année assez terrible, pas parce qu'il se passait quelque chose, mais parce qu'il se passait rien. Mais ce rien était menaçant en lui-même.
L'État national socialiste est instauré, et à sa tête, le dictateur Antonescu.
Oui. Alors l'État national-socialiste est instauré avec la tête de son dictateur Antonescu, qui est un général, et puis à côté de lui, le chef de la garde de fer. Et commence une époque où on romanise les entreprises, on commence une époque où on assassine beaucoup de grands démocrates, ou moins démocrates roumains. On commence aussi l'époque des grandes corruptions. On croit souvent que les national-socialistes n'étaient pas corruptibles, mais le parti national-socialiste, comme les légionnaires, c'est des gens qui étaient très très corrompus par certains côtés. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc on commence cette période trouble de la corruption, du pillage, de l'assassinat. Et puis de l'incertitude, finalement, qui commençait à s'approcher. On était maintenant pris. Hein, pour la première fois, on était vraiment pris. Il n'y avait plus de sortie. Et je pense que ça a commencé, je pourrais dire, une période grise de la vie de la communauté, de la vie de chacun. Et la pauvreté commençait à se faire sentir, puisque les gens ne pouvaient plus travailler, ne pouvaient plus gagner leur vie, même s'il y avait certaines familles qui ont réussi à sauver leurs biens, ou par exemple il y avait les roumanisations, c'est-à-dire on donnait son entreprise ou son magasin à Roumain, etc. Mais enfin, ça, c'était pas... C'était une période où on savait bien que quelque chose de plus grave va arriver.
Alors comment est-ce que vous passiez vos journées? Parce qu'il y avait l'horte, bien sûr, mais ça ne prenait pas tout votre temps.
Non, à ce moment-là, j'ai fait la connaissance, puisque je m'installais un peu à Bucarest, j'ai fait la connaissance de deux, trois garçons, dont le plus important dans ma vie a été Isidore Isou. D'ailleurs, je l'ai vu dimanche dernier. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous commençons? Nous sommes des rêveurs de ghetto. Enfin, je veux dire, nous commençons à parler de livres. Je vous ai dit que nous étions très sérieux dans notre façon d'être. Le sérieux ne comprenant pas l'austérité de la vie. Enfin, je veux dire, on était très sérieux. On a commencé à parler de livres. On a passé tout le temps libre que nous avions à faire ça. Je lui donnais aussi à lire le manuscrit de les deux chapitres de ce roman que j'ai appelé La Mer Rouge. Et puis il ne l'a pas aimé parce qu'Isou était contre le style Zola et le style Tolstoï. On pouvait commencer à lire de poésie. Et donc c'était en même temps ça. C'est-à-dire la lecture, la vie intellectuelle commençait à entrer dans mon existence quotidienne, en partie comme une forme de fuite, hein, par rapport à ce drame qui se rapprochait.
Lors de notre prochain épisode, nous vivrons avec vous le tremblement de terre survenu à cette époque à Bucarest, les soldats allemands dans les rues et les assassinats sommaires commis par les gardes de fer à l'encontre de personnalités roumaines. Nous parlerons également de l'amitié, parce que l'amitié, c'est important pour vous.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.